Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire, rire, bien dormir.
Bouger, faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo les spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, j'espère que vous allez bien. C'est Marianne Paquette qui est là, je vous accompagne au cours des 30 prochaines minutes dans le cadre de cette émission. C'est bon pour la santé sur Canal M. Jusqu'au 5 décembre se tiendra la semaine citoyenneté et handicap de l'UQAM. C'est une semaine qui tente de dresser un pont entre divers milieux, donc le milieu communautaire, de l'intervention, de la recherche et de l'enseignement. On est à la veille de la Journée internationale des personnes handicapées. J'avais envie de me donner l'opportunité de discuter avec Benoît Racette, lui qui est organisateur communautaire pour l'organisme Ex Aequo et également membre du comité organisateur de cette semaine-là. On lui parle en deuxième partie d'émission. Mais d'abord, au Québec, chaque année, il y a plus de 13 000 personnes qui subissent un traumatisme crânio-cérébral. Chez les moins de 35 ans, c'est quelque chose que j'ai appris, c'est la cause principale de décès ou encore, on peut facilement l'entrevoir, de limitations majeures. Et les victimes de TCC, on va faire ce petit raccourci-là, constituent souvent la clientèle qui est la plus complexe à recevoir au sein des services de réadaptation. Mais qu'en est-il des clientèles plus âgées? Je pense ici à des gens âgés de 55 ans et plus. Est-ce que la réadaptation, elle est possible? Je vais poser cette question à Eduardo Cisneros, lui, neuropsychologue au programme pour les personnes ayant subi un traumatisme crânio-cérébral du Centre de réadaptation, Lucie Bruno. Eh bien, mon salvadorien est pas si mal, Eduardo. J'ai dit votre nom comme
absolument,
il faut.
Absolument, très parfaitement, oui.
Merci d'être là, Eduardo.
Merci de l'invitation.
Ce questionnement-là, à savoir, est-ce que la réadaptation, elle est possible pour les personnes plus âgées qui ont subi un traumatisme crânio-cérébral? C'est une question que vous vous êtes posée et que vous poserez également dans le cadre des conférences Rendez-vous de la réadaptation du Centre de réadaptation Lucie Bruno le 9 décembre prochain. Et on se le disait tout à l'heure, quelques minutes avant qu'on ouvre les micros, on commence de plus en plus à en parler. De TCC, pour faire le petit raccourci. C'est une bonne nouvelle. On en parle chez différentes clientèles, beaucoup les athlètes, hein, oui. Les joueurs de hockey notamment, oui. Les footballeurs. Chez les enfants aussi, de plus en plus. Chez les personnes âgées, peut-être un peu moins, et pourtant les impacts sont réels. Et même, on se pose la question de la réadaptation, est-ce qu'elle est possible aujourd'hui? Traumatisme crânio-cérébral, c'est la même chose qu'un traumatisme crânien?
Oui, absolument. Mais oui et non. Crânien, ce serait comme un traumatisme qui reste à la surface du crâne, donc à l'os qui recouvre le cerveau. Mais un traumatisme crânio-cérébral précise que l'impact va affecter le fonctionnement cérébral. Donc, ça demeure pas à la surface du crâne. Donc, il y a une force suffisamment importante. Ça peut être un impact, comme ça peut être une force, comme par exemple une accélération, une décélération. On arrête violemment après une vitesse élevée. Alors, ça peut provoquer des dommages à l'intérieur du cerveau. Et c'est considéré aussi un traumatisme crânio-cérébral, parce que le cerveau, le fonctionnement cérébral est atteint. Oui.
Quelles sont les causes les plus fréquentes d'un TCC?
Ça varie. Ben, c'est une diversité. Souvent, l'exemple le plus frappant, c'est un accident d'auto. Actuellement, les accidents ou les incidents dans les sports. Ça peut être même des chutes dans le contexte d'un travail. Mais relatif à la personne âgée, la cause la plus fréquente, ce sont des chutes.
Oui. Ils sont plus sujets aux chutes.
Oui. Oui, parce qu'avec le vieillissement, la précision de la démarche peut être moins forte, moins dynamique avant l'équilibre. Alors, une personne âgée qui tombe de sa propre hauteur, donc on trébuche et on se fait mal, on n'a pas besoin de pas grand-chose pour parler de la probabilité d'un traumatisme crânio-cérébral. Ce n'est pas tout le monde qui, en trébuchant, va se faire un traumatisme crânio-cérébral, mais on sait que ce sont des personnes à risque. Mm-hmm. Surtout, plus on va vieux, plus on est à risque de souffrir, de subir finalement les séquelles d'un traumatisme crânio-cérébral. Et ceci est en raison des vulnérabilités propres à oui. l'âge. Okay? On devient un petit peu plus vulnérable tant au niveau de son cerveau que de sa condition physique générale.
Oui.
Ceci n'est pas universel. Okay? Il y a une énorme variabilité d'un individu à l'autre.
On ne met pas tout le monde dans le même panier. Oui,
absolument
oui.
pas. Ça va varier d'un individu à l'autre. Ça va varier d'une personne à l'autre. Et les facteurs sont encore méconnus. Qu'est-ce qui va déterminer qu'une personne soit plus à risque que l'autre? C'est encore en oui. étude.
Ce que vous me dites, Eduardo, mm-hmm. c'est qu'il y a des gens qui peuvent faire une chute et bien s'en sortir, se relever, un ou deux bleus et c'est tout. Mm-hmm. Et d'autres personnes qui peuvent faire subir, être victimes d'un TCC.
Oui, oui, absolument. Et chez les jeunes qui vont trébucher d'eux-mêmes, qui vont tomber de son hauteur, on ne va craindre rien. Okay? Ils vont se relever. Chez la personne âgée, oui. Mettons les choses de cette manière. Le traumatisme crânio-cérébral léger, c'est-à-dire qu'il n'y a pas nécessairement une grosse perte ou une grosse perturbation de la conscience. Chez la personne jeune, les cours d'évolution, c'est les 85% qui vont évoluer bien, sans séquelles.
Oui.
Chez une personne âgée, ces proportions vont varier. Ça va être différent en raison des vulnérabilités oui. inhérentes au vieillissement.
Parlons-en de ces séquelles, justement. Mm-hmm. Et ils se classent sur différents niveaux, sur le plan émotionnel, sur le plan physique, sur le plan cognitif. Bon, ils sont différents aussi, j'imagine, de la clientèle plus jeune. Mais quels sont-ils, ces impacts-là, oui. ces séquelles-là?
Les séquelles vont varier en intensité selon la sévérité du traumatisme. On reconnaît trois grands groupes de sévérité, le traumatisme léger, modéré et sévère. Les variations vont dépendre du degré de perte de conscience ou de perturbation ainsi mm-hmm. que de la durée. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais...
On n'a pas le temps.
Oui, c'est ça. Mais il y a une forme de traumatisme crânio-cérébral léger qu'on l'appelle complexe lorsqu'il y a des hémorragies cérébrales. Okay? Alors, les personnes âgées sont plus inclines et plus vulnérables à ce type de blessures en raison, comme je le disais, de certaines particularités cérébrales.
Mm-hmm. Mais en fait...
Les séquelles.
Oui, les séquelles. Oui, vous aviez oublié ma question.
Oui, voilà. Les séquelles sont... Donc, ça va varier en fonction de la sévérité. Mais les séquelles cognitives, même qu'il y a une grande diversité, vont tomber dans ce qui est l'attention, la concentration, qu'on appelle communément la mémoire, particulièrement la mémoire immédiate, la mémoire mm-hmm. récente, la capacité à résoudre des problèmes nouveaux. Et sur le plan émotionnel, on pourrait détecter une irritabilité, une facilité à se sentir frustré. La dépression n'est pas une séquelle immédiate du traumatisme. Elle devient comme une séquelle secondaire. Quand je ne suis mm-hmm. pas capable de pouvoir fonctionner comme j'étais habitué à le faire, comme je me reconnais moi-même à chaque jour, je suis mm-hmm. capable de faire certaines choses, mais du jour au lendemain, je ne le suis pas. Et en plus, je deviens irritable et mon réseau social s'effrite. Évidemment que j'ai subi des pertes identitaires, des pertes sociales, des pertes en termes de facultés. Et la perte, c'est un des ingrédients de la dépression,
oui.
des composantes.
Et c'est parfois, Eduardo, aussi une conséquence du vieillissement, la perte. On perd des gens qu'on aime, il y a des loisirs qu'on ne peut plus faire comme on le peut, comme on le veut. Oui. Peut-être qu'on est plus fatigué ou certaines maladies s'installent également. Et bon, quand il arrive en plus un TCC, j'imagine que l'impact est encore plus grand, là. On peut imaginer que les personnes plus âgées voient ça comme un grand défi.
Voilà, et c'est un grand défi. Oui. C'est un grand défi tant, vous le dites bien, on est déjà en train d'éliminer certaines habitudes de vie parce qu'elles nous sont plus difficiles, parce qu'elles sont plus ardues, etc. Alors, il arrive un traumatisme à l'âge où on est en train de planifier une vie plus tranquille, probablement vers la retraite,
oui.
Ou on débute la retraite. Et alors, ça arrive, cette circonstance-là. Et évidemment que la personne va être beaucoup plus, encore plus incline à avoir un sentiment dépressif suite au traumatisme. Oui.
Est-ce que le sommeil peut être touché?
Oui. Et une des perturbations qui est fréquente suite à un traumatisme, c'est le sommeil, c'est la régulation de l'humeur, etc. Oui. Alors, oui.
Oui. Est-ce que, et là, bien sûr, on est là pour parler de réadaptation mm-hmm. également, est-ce que ça se guérit complètement?
Non. Et la réponse, c'est oui et non. Mm-hmm. Il y a un certain groupe de personnes qui subissent un traumatisme crânio-cérébral léger. Et même, je connais des personnes qui ont subi des traumatismes d'une plus grande sévérité, et ils vont, et peut-être le terme est trompeur, guérir. Okay? Le cerveau est blessé, mais je peux fonctionner quand même. Je pourrais fonctionner, oui. Je pourrais continuer à travailler, je pourrais reprendre ma vie. Et là où je l'ai laissé après la réadaptation, dans certains cas, c'est possible. Et c'est faisable et on le voit à tous les jours dans notre centre de réadaptation, à Lucie-Bruno.
Mm-hmm.
Mais guérir dans le sens total.
Que tout soit comme
que
avant.
Que tout soit comme avant. En général, non, parce qu'il peut rester des séquelles, il peut rester des difficultés qui vont quand même faire des changements. Qu'est-ce que je peux faire avec ces séquelles?
Oui.
Et une des choses qu'on doit faire à travers le processus de réadaptation peut être court, qu'on peut être long,
mm-hmm.
mais à travers ces processus, c'est l'acceptation et l'adaptation. Et on doit s'ajuster à ces problèmes-là, d'une part.
Apprendre à vivre avec. Ouais.
Donc, à faire avec ce qu'on a. D'une autre part, la réadaptation peut aider à la personne, et c'est ça qu'on essaie de démontrer avec l'étude que je vais présenter, faire une présentation la semaine prochaine.
Ouais.
C'est qu'à travers des interventions spécifiques, on peut conduire à une amélioration de certaines facultés qui ont été perturbées par les traumatismes.
Votre étude, c'est un programme qui s'appelle Programme d'enrichissement cognitif.
Oui.
C'est bien ça. Et ça vous a permis de constater qu'il peut avoir des retombées extrêmement significatives et positives à travers la réadaptation des personnes âgées qui ont vécu un traumatisme crânio-cérébral. C'est quoi ce programme-là?
Oui, c'est un programme, c'est un ensemble d'enseignements et d'exercices systématiques qu'on a organisés pour répondre justement aux particularités physiologiques et neuropsychologiques de la personne âgée.
OK.
On l'a pris d'autres programmes qui ont démontré leur efficacité, tant en attention, en mémoire, résolution des problèmes, flexibilité cognitive. Et ce qu'on observe avec un petit groupe, ma recherche ne prétend pas être la recherche, c'est un début de recherche, ça démontre qu'il y a une amélioration de certains aspects de la mémoire récente, de certains aspects de ce qu'on appelle fonction exécutive, donc la résolution de problèmes, la flexibilité cognitive, c'est-à-dire la capacité de trouver une ou plusieurs solutions à des problèmes.
Problème. Mm-hmm.
Oui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a trouvé des changements non seulement dans certains tests neuropsychologiques, ce sont des tests de preuves papier-crayon, mais aussi dans certains changements. Et un changement qui est très important pour nous, c'est le bien-être psychologique.
Oui.
Il y a une bonne proportion du groupe expérimental qui signale une amélioration. Il était qualifiable comme en détresse psychologique sévère au moment de débuter l'intervention et se classe une bonne proportion d'eux en bien-être psychologique. Ce qui pour moi, c'est une donnée
significative. Je le vois dans vos yeux que vous êtes content de cette découverte-là.
Oui, oui.
L'attention également, ça vous a permis de démontrer qu'on peut améliorer la concentration et que ça peut quand même peser dans la balance dans l'aspect de la mémoire également.
Justement, et vous le dites bien, parce que beaucoup de plaintes, c'est la mémoire. J'ai des problèmes de mémoire, mais souvent, c'est un problème d'attention.
Mm-hmm.
Et Dr Sylvie Belleville, à l'Institut de gériatrie de Montréal, a développé un programme qui débute justement avec un entraînement de l'attention qui permet à la personne de se rendre compte que c'est au moment dans lequel la personne est en train d'essayer de mémoriser qu'il faut élargir son champ d'attention, qu'il faut prêter une attention beaucoup plus vaste, beaucoup plus accentuée sur les aspects à apprendre pour que la personne puisse le faire. Mm-hmm. Et c'est intéressant de, quand j'explique ça aux clients, parce que mon intérêt, c'est que les clients sachent ce qu'on est en train de faire, ouais. Ça fait tout son sens. Hein? Comme maintenant, je suis très, très attentif à ce qui arrive, à cet instant même. C'est sûr que je vais m'en souvenir pas mal longtemps.
J'espère.
Après.
Une autre question, et ça m'intéresse parce que je tente toujours de cibler le quotidien des gens.
Oui.
Et bien sûr qu'un traumatisme crânio-cérébral, ça atteint le quotidien des gens, et pas seulement juste des gens qui en sont victimes, mais également de leurs proches. Comment on peut réapprendre à vivre au quotidien après un accident ou après un tel changement?
Oui. L'important, un des principes de réadaptation fondamentaux, c'est reprendre les activités quotidiennes progressivement. La fatigue nous guette après le traumatisme crânio-cérébral et même avant, parce que vous l'avez dit, comme vous l'avez dit bien, plus âgé on est, plus fatigable on est. Alors la reprise doit être progressive. Il doit y avoir un respect de soi, pas se presser à faire des choses. Prendre le temps de bien apprendre, prendre le temps de bien saisir, par exemple, un guide dans la construction d'un meuble, je ne sais pas quoi. Donc, ça, c'est important. Prendre des pauses aussi. Alors qu'avant, on pouvait faire plusieurs choses en même temps sans se plaindre, sans
oui,
difficulté.
Sans se fatiguer aussi.
Sans se fatiguer. Mm-hmm. Maintenant, on doit aller une chose derrière l'autre, une chose à la fois. Et il faut accepter ça, voir ça pas comme une fatalité, sinon comme une façon d'investir les énergies que je possède.
Oui.
C'est ça que j'étais profondément admiratif des clients que j'ai reçus pour cette recherche-là, comment eux, malgré la fatigue, se déplaçaient, venaient deux fois par semaine à cette intervention-là, participaient activement, mais en prenant aussi des pauses, en apprenant aussi à doser les énergies investies dans chaque activité. Et alors, donc, pour ainsi dire, j'apprenais aussi de...
Oui. Hein, beaucoup de résilience, hein?
Absolument. Oui, oui. Et de résilience. Et aussi, ben, dans les aspects moins cognitifs de l'intervention, c'est apprendre aussi à lâcher prise dans certaines tâches qui sont trop... ou apprendre plutôt à les diviser en parties.
Ou à les faire différemment. Oui, c'est ça, voilà.
À les faire différemment. Oui, voilà. Et dans cet apprentissage, il y a un raisonnement, il y a une réflexion, il y a une prise et en charge autrement et de manière que la personne est en train de raisonner, de résoudre le problème. Et c'est ça qui a été intéressant. Mais pour revenir à la question des habitudes de vie ou de la vie quotidienne, une des choses qui nous réjouissent beaucoup, c'est que sans avoir agi directement dans la vie de tous les jours de ces personnes-là, on note dans les tests qu'on a évalués, qu'on a utilisés, que plusieurs des clients ont repris des activités qu'ils avaient abandonnées, qu'ils avaient abandonnées après le traumatisme, mais qu'ils faisaient avant le traumatisme. Donc, quand on se sent mieux, quand on se sent plus compétent, quand on a abandonné certaines activités comme ne serait-ce qu'aller faire l'épicerie ou faire la popote, et que parce que je fonctionne mieux au niveau de la mémoire, je planifie mieux ma semaine, je planifie mieux mes forces, je planifie mieux mes activités.
J'ai confiance dans mes capacités aussi.
Alors, ça augmente, la confiance, ça augmente l'estime et en effet... Et d'un côté, on reprend certaines activités qu'on avait abandonnées et d'un autre côté, on se sent mieux psychologiquement.
Eduardo Cisneros, le 9 décembre, prochain, vous allez présenter dans le cadre des rendez-vous de la réadaptation une conférence de nouvelles perspectives pour les personnes âgées ayant subi un traumatisme crânio-cérébral. C'est du côté du Centre de réadaptation Lucie Bruno. Vous invitez qui à cette rencontre-là?
En général, des partenaires de la réadaptation de toute provenance, que ce soit ergothérapeute, travailleur social, infirmiers, neuropsychologues, bien sûr, comme moi.
Oui.
Et pour et venir échanger un peu quelles sont les stratégies qui, pour nous, en étaient quand même les plus précieuses, les plus importantes, ainsi que les résultats que nous présentons avec fierté et avec modestie en même temps.
Mm-hmm.
Parce que c'est un groupe de 32 personnes seulement, ce n'est pas en recherche de 1000 personnes, mais quand même avec suffisamment de consistance pour que nous soyons optimistes.
Mm-hmm.
Moi,
pour ces personnes victimes d'un traumatisme crâno-cérébral. Oui. LucieBruneau.qc.ca. Eduardo, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous rencontrer.
Merci beaucoup. Bonjour.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial_canal_M.
Bonjour Benoît Rassette.
Bonjour.
Vous êtes l'organisateur communautaire pour l'organisme Ex-Éco, également membre du comité organisateur de cette semaine, qui est la semaine citoyenneté et handicap de l'UQAM, qui se tient jusqu'au 5 décembre. C'est quoi l'initiative de cette semaine-là, Benoît?
Bien, en fait, ce n'est pas la première année
qu'elle se tient.
En fait, c'est la quatrième.
Et ça fait 4 ans que vous êtes là.
Et oui, en fait, comme groupe, comme personne depuis 3 ans. Mais il y a d'autres groupes aussi que Mireille a réunis avec le temps, qui s'appelle le Programme international d'éducation à la citoyenneté démocratique, qui est une initiative par, pour et avec les personnes en situation de handicap. Donc, c'est la rencontre de chercheurs, d'intervenants sociaux et de groupes de défense de droits, ainsi que des personnes en situation de handicap qui ont mené plusieurs initiatives, dont celle-là, cette semaine, la semaine citoyenneté handicap de l'UQAM.
Est-ce que, le choix de l'inscrire dans cette semaine-là, qui est la première semaine du mois de décembre, c'est un peu en lien avec la Journée internationale des personnes handicapées qui se tient demain, 3 décembre?
Vous avez parfaitement raison. C'est une occasion à ne pas manquer. C'est une journée, il y en a deux, hein, vous savez, celle d'aujourd'hui et celle de l'ONU, Journée internationale des personnes handicapées. Et c'est pas pour rien, parce que je dirais que la semaine est organisée autour, ou les thématiques de la semaine sont organisées autour des droits. Donc, mm-hmm. les différentes formes de droits, que ce soit les droits politiques, les droits culturels, socio-économiques, et bien sûr, même les droits sexuels. Enfin, toutes ces thématiques-là ont été développées avec le temps au cours des différentes semaines.
Est-ce qu'il y a des enjeux plus importants sur lesquels vous allez vous pencher pendant la semaine?
Bien, en fait, c'est sûr que cette année, on a tenté de réfléchir davantage sur les transformations des représentations du handicap dans notre société.
Mm-hmm.
Donc, on est passé quand même d'une société où les personnes en situation de handicap étaient pratiquement fermées, donc en institution, particulièrement les personnes qui avaient des déficiences intellectuelles ou qui avaient des troubles de santé mentale, et de plus en plus, notre société les a fait évoluer afin qu'ils aient des droits civils, éventuellement, on a parlé d'inclusion sociale.
Oui.
Mais pour qu'il y ait inclusion sociale, il faut que tout le monde se parle.
Oui.
Et un des supports à ça, c'est notre imaginaire collectif, c'est notre culture, c'est notre identité. Alors, cet axe-là a été particulièrement réfléchi dans le cadre de cette semaine.
Quelle question? Vous dites, et ça, je trouve ça intéressant, vous avez réuni différents acteurs du milieu communautaire, de la recherche, de l'enseignement, de l'intervention, des gens aussi qui vivent en situation de handicap.
Exactement.
Quelles questions vous avez envie de leur poser à toutes ces belles personnes-là?
Bien, en fait, il y a plusieurs groupes qui proposent chacun leur série de questions. Par exemple, cet après-midi, pendant qu'on se parle, il y a une activité proposée, entre autres, par André Duprat, qui est sexologue à l'UQAM, avec Mireille Tremblay, sur les droits sexuels. Je dirais d'ailleurs que c'est un thème qui a beaucoup fait couler d'encre depuis les années où il y a des activités qui les concernent, puisque, bon, il y a toutes sortes de questions éthiques. En même temps aussi, on reconnaît assez peu l'autonomie des personnes qui ont des déficiences intellectuelles ou qui ont d'autres types de déficiences. Alors, c'est ce qui se passe en ce moment et donc, c'est une activité ou un thème récurrent. Par contre, je dirais que les droits politiques sont à l'honneur aussi. Et, bon, il y aura une discussion jeudi sur la Convention des droits et libertés, la Convention relative aux droits des personnes handicapées, comment on peut l'appliquer, la faire vivre dans nos pays respectifs. Et nous, demain, on propose un sommet qui fait suite à une recherche que l'on a menée sur la participation citoyenne des jeunes en situation de handicap. Donc, en avant-midi, c'est une portion entre les jeunes et dès 14 heures, c'est une présentation publique des conclusions de la recherche et même d'une déclaration que les jeunes viendront faire pour améliorer, dans le fond, la participation citoyenne des jeunes en situation de handicap.
Est-ce que le grand public, c'est-à-dire moi ou mon voisin, ma voisine, est invité à cette semaine-là?
Bien, évidemment, il y en a pour tous les goûts. Peut-être que j'ai l'air lourd avec ma discussion sur les droits. On n'est pas obligé d'être un spécialiste des droits et libertés. En fait, il y a plusieurs manières de le présenter. Je pense entre autres à aujourd'hui, l'organisme Mexico, qui a le même nom, mais qui a absolument une autre vocation. Eux s'intéressent à la médiation. Donc, trouver des moyens pour vulgariser et même aux personnes davantage marginalisées. Donc, vous pouvez vous imaginer qu'on essaie de vulgariser puis de rendre accessible à tous. Mais il y a des discussions pointues, il y a des discussions plus libres, plus ouvertes. Il y a même en ce moment une exposition proposée par Vie Autonome Montréal sur les têtes d'affiche de l'inclusion sociale des personnes handicapées. Enfin, bref, il y en a pour tous les goûts et ça se situe dans le pavillon Judith Jasmin où, hey boy, je vais... C'est le 28-05 à ta minute. 28-05 du pavillon Judith Jasmin
pour pouvoir voir cette exposition.
Et participer aux différentes conférences, séminaires, lieux d'échange, etc.
Est-ce que le milieu communautaire ou encore de l'intervention, de la recherche, de l'enseignement a bien répondu à votre appel?
En fait, ça varie d'une année à l'autre. Je dirais que, oui, ça joue d'une certaine attention. Il faut dire que Mme Mireille Tremblay est une des rares chercheurs qui s'intéresse particulièrement au pôle citoyenneté et handicap. Elle le fait, entre autres, à l'Institut Santé-Société. Et, évidemment, elle a co-organisé avec le Programme international d'éducation à la citoyenneté des liens avec toutes sortes de groupes à travers le monde. D'ailleurs...
Et Benoît, je vous arrête parce que sinon, on va s'interrompre sans pouvoir se saluer, mais on ira vous voir du côté de la Semaine citoyenneté et handicap de l'UQAM. Je rappelle, vous êtes organisateur de cette semaine-là et également au sein de l'organisme.